France Inter 8h. Le journal Bernadette Chamonaz, bonjour.
Bonjour, croissance, l'INSEE voit rose, ce sera 1,8% cette année, du jamais vu cet optimisme depuis 6 ans. Dans ce journal, les raisons de l'accélération et un reportage au salon Paris Emploi, comment bien chercher pour mieux trouver. États-Unis, et si la tuerie de Las Vegas enclenchait le débat sur les armes en question, les bump stocks qui permettent les tirs en rafale. Catalogne, l'Église qui propose sa médiation. Quelle politique de défense pour la France? On en parle avec votre invité à 8h20, Nicolas, la ministre des Armées.
J'ai nommé Florence Parly, invitée d'Inter. Dans une vingtaine de minutes, vos questions dès maintenant au standard 01 45 24 7000.
Dans ce journal encore, le procès de Mami Djihad, partie en Syrie par amour filial. Saint-Martin, le défi de l'eau. Le préfet en appelle à Veolia, il faut mettre le paquet. Ils se sentent bien seuls. Souvent, c'est aujourd'hui la journée des aidants. Enfin, à Bayeux, hommage à d'autres anges gardiens, les fixeurs, des correspondants de guerre.
France Inter.
Croissance, la courbe s'accélère et dans le bon sens. Des années que l'INSEE n'avait pas été aussi optimiste. L'Institut d'études économiques table sur une croissance de 1,8% cette année. Même le gouvernement n'en espérait pas tant, qui construit son budget sur une prévision de 1,7. Après trois années de stagnation à 1%, c'est plus qu'une embellie. C'est même du jamais vu depuis 2011. Pour comprendre ce qu'il se passe, Hélène Philly, un mot à retenir, investissement.
C'est un peu comme cette appréciation sur un bulletin scolaire. Les bases commencent à devenir solides, mais l'économie française peut mieux faire. Le gouvernement pourra s'appuyer sur une croissance plus forte qu'espérée, sur des chefs d'entreprise qui investissent plus 3,9% en 2017, comme les ménages d'ailleurs qui bénéficient toujours des baisses des taux d'intérêt pour acheter. Leur investissement bondit de 5% sur l'année et ça, c'est inédit en 11 ans. Mais il y a plusieurs points noirs. Le taux de chômage continuerait de reculer à 9,4%. C'est un peu moins bien qu'espéré. D'une part parce que le secteur privé recrute moins qu'en début d'année, privé de la prime à l'embauche pour les PME. D'autre part parce que dans le secteur non marchand, la réduction des contrats aidés fait dégringoler les effectifs. Moins 46 000 emplois au second semestre alors qu'ils augmentaient au premier. Dernier point, si les exportations françaises reprennent de la vigueur grâce au retour des touristes et aux ventes d'électricité permises par le redémarrage de centrales nucléaires, elles auraient pu faire nettement mieux au regard de l'activité mondiale.
Au niveau mondial justement, où la reprise économique s'installe durablement, c'est ce que dit le FMI, qui dit que c'est le moment aussi de faire des réformes, notamment sur le travail. D'ailleurs, à ce propos, en France, contre les ordonnances sur la loi travail, le front social s'élargit. Tous les syndicats, les organisations étudiantes aussi, seront au siège de la CGT lundi soir pour discuter d'une action unitaire. La CFDT sera là pour débattre, mais sans s'engager, dit-elle, sur une mobilisation.
Et puis j'en profite pour vous annoncer l'interview exclusive du ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, demain sur France Inter, dans On n'arrête pas l'écho d'Alexandra Ben Saïd. Ce sera à 9h10. Pour l'instant, 8h03, Bernadette, on va maintenant au plus grand salon de France dédié à l'emploi. Il s'est ouvert à Paris.
Oui, 10 000 postes à pourvoir. Voilà ce que propose Paris Emploi, qui se tient jusqu'à ce soir. 500 entreprises présentes, particulièrement représentées l'informatique, la comptabilité. L'an dernier, 47 000 personnes sont venues à la recherche de l'emploi rêvé. Offres multiples, pléthoriques même, et pourtant, ce n'est pas évident de trouver son bonheur, car il faut avoir la bonne méthode. Guillaume Dreschler, après avoir parcouru le salon, vous nous donnez justement quelques clés.
Sous le chapiteau, place de la Concorde, 10 000 mètres carrés de stand, de quoi s'y perdre.
C'est plus grand qu'un stade, hein. C'est un marché géant, en fait. C'est comme une grande foire.
Wassim recherche un contrat en alternance dans le commerce.
Je cible ce qui m'intéresse, entre guillemets. Par exemple, si je sais que j'ai plus de chances vers Carrefour que Lidl, bah, je vais plus me concentrer vers Carrefour, je vais faire la queue. Et après, quand c'est à mon tour, l'échange se met en place.
Alexandre, lui, recherche un contrat en alternance dans les ressources humaines et sa méthode est différente.
Je préfère ne pas faire de chichi, donc je dépose vraiment à tout le monde. Je ne peux plus me permettre de faire du favoritisme pour tel ou tel secteur. Et puis la RH, je peux aller quasiment partout. Donc je me dis, je peux aller dans n'importe quel type d'entreprise.
Cibler ou déposer son CV au hasard, Emmanuel Plante, responsable ressources humaines chez Raboni, a choisi.
Dans 75% des cas, nous on va plutôt les orienter vers d'autres entreprises parce qu'ils viennent, ils déposent un CV et voilà, ils pensent avoir fait leur devoir de recherche mais ils ne sont pas préparés à cette recherche. Et ceux qui ont ciblé l'entreprise et qui viennent Raboni, j'ai regardé, je suis intéressé par ça, on est à 90% des cas, c'est des gens qu'on reçoit derrière.
La préparation du salon reste donc une étape primordiale pour ceux qui recherchent un emploi. L'année dernière, un tiers seulement des postes à pourvoir pendant le salon ont trouvé preneur.
Et si vous voulez y aller, dépêchez-vous, le salon Paris Emploi, c'est jusqu'à ce soir, 18h. Hausse de la CSG, le feu couve dans les maisons de retraite, car il y a un hic. Les résidents des maisons de retraite vont la payer dès le 1er janvier prochain, comme tout le monde, mais ils ne bénéficieront pas de la suppression de la taxe d'habitation, puisqu'ils ne la payent déjà pas. Cela concerne tout de même 600 000 personnes. La majorité se dit consciente du problème et cherche des solutions.
8h06 aux États-Unis, et si la tuerie de Las Vegas enclenchait enfin un début de débat sur les armes.
On les appelle les bump stocks. Ils permettent aux armes semi-automatiques de tirer en rafale jusqu'à 950 coups par minute. C'est ce mécanisme qui a permis à Stephen Paddock de multiplier le nombre des victimes à Las Vegas. 58 morts, plus de 500 blessés. Eh bien, ces bump stocks, les élus républicains se disent prêts à discuter de l'éventualité de les interdire. Marco Voltaire.
Qui de mieux que la NRA pour sortir Donald Trump et le camp républicain de l'embarras dans le débat sur les armes. Le salut est venu par un communiqué dans lequel le lobby se dit favorable à un durcissement de la législation sur les bump stocks, ce mécanisme qui permet de tirer une centaine de balles par minute, une pièce qui se monte au niveau de la crosse du fusil et qui transforme donc pour une centaine de dollars une arme semi-automatique en automatique. La NRA soutient ainsi le projet d'une proposition de loi d'un élu républicain de Floride. En face, les leaders démocrates espèrent pouvoir saisir cette opportunité pour élargir le débat au Congrès, notamment au background check pour plus de vérification des antécédents des acquéreurs d'armes. En attendant, les supermarchés Walmart et une chaîne américaine d'équipements sportifs ont déjà retiré le mécanisme de leur site de vente en ligne, alors que, tout comme les ventes d'armes en général après chaque tuerie de masse, les commandes de bump stock se sont envolées depuis le carnage de Las Vegas par crainte de ne bientôt plus pouvoir en acheter. À New York, Marco Voltaire pour France Inter.
En Catalogne, la fracture est plus que jamais ouverte. La justice espagnole a suspendu la séance du Parlement catalan qui devait proclamer l'indépendance lundi prochain. Les ébauches de médiation entre Madrid et Barcelone ont toutes pour l'instant échoué. Mathieu de Taillac, un interlocuteur pourrait peut-être dénouer la crise, l'Église.
Officiellement, il n'y a aucune médiation, encore moins de médiation publique. Le gouvernement de Mariano Rajoy n'en veut pas, ce serait le mettre au même niveau que l'une de ses régions, qu'il considère en plus rebelle. Mais il existe des institutions qui acceptent de parler avec les uns et avec les autres et qui veulent faciliter le dialogue. Les archevêques de Madrid et de Barcelone, par exemple, Carlos Osoro et Juan José Omeya, respectivement. Rajoy a reçu les deux prélats. Quelques jours auparavant, l'archevêque de Barcelone avait rencontré le vice-président du gouvernement catalan. Quant à son homologue à Madrid, il parle à sa demande avec Pablo Iglesias de Podemos, un grand défenseur de la médiation. Les deux hommes ont la confiance du pape François. Pas question pour le Vatican de reconnaître un quelconque droit à l'autodétermination de la Catalogne, mais la conférence épiscopale a insisté dans un communiqué sur l'importance du dialogue et le respect des droits des peuples qui composent l'État. Une grande première pour les évêques espagnols qui jouissent, c'est assez rare, du respect des deux parties. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
Et maintenant, les banques fuient. C'est quasiment fait pour Banco Sabadell, la deuxième de Catalogne, qui voit ses actions plonger. Elle va installer son siège à Alicante. Et la première, CaixaBank, envisage maintenant sérieusement de partir, elle, aux Baléares. En matière de terrorisme, c'est une accusée hors norme qui comparaît depuis hier devant le tribunal correctionnel de Paris. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour.
Alors pour France Inter, vous suivez le procès de cette femme. Elle est surnommée Mamie Djihad, non pas à cause de son âge, elle a 51 ans, elle n'est pas si vieille, mais c'est la plus âgée des femmes incarcérées en France à leur retour de Syrie. Un pays qu'elle a rejoint à 3 reprises, Sophie, par amour pour son fils et sa défense en tous les cas.
Exactement, cette femme s'appelle Christine Rivière. Elle est petite, emmitouflée dans un col roulé rouge, sous un gros gilet de laine noire et de fausse fourrure grise. Elle a noué ses longs cheveux châtains en chignon, écarquille ses yeux clairs. Cette fille de forain répète qu'elle est juste partie en Syrie par amour pour son fils Tyler Villus, un émir de Daesh qui rêvait de mourir en martyr. Elle voulait profiter de lui avant sa mort et a donc fait 3 allers-retours à Raqqa entre l'été 2013 et le printemps 2014. Madame Rivière, pouvez-vous nous expliquer cette photo de vous en niqab et kalachnikov en position de tir ? C'est particulier quand même, l'interroge la présidente du tribunal. Bah, en Syrie, il y a des armes partout, répond la prévenue. Et sur votre Facebook, ces images de décapitation et de crucifixion, c'est quoi ? C'était juste pour montrer la réalité, dit Christine Rivière. Le procureur se lève et lit des lettres dans lesquelles on comprend comprend qu'elle a cherché plusieurs épouses pour son fils. Extrait d'un courrier de la mère au fils en 2013. J'ai trouvé une sœur. Ça, c'est de la sœur. Elle en Syrie, nos problèmes. Elle est prête pour une opération martyr et elle est très gentille. Autre lettre. Bon, la sœur te demande de la rajouter sur Facebook. Elle est toute mimi de Belgique et elle veut combattre. Madame Rivière, combien de jeunes filles sont aujourd'hui en Syrie grâce à vos interventions? Savez-vous que l'une d'elles avait 17 ans? L'interroge le procureur. Je n'ai forcé personne, dit Christine Rivière, plusieurs fois en larmes à son procès. Elle risque 10 ans de prison.
Et ce procès que vous suivez pour nous se termine ce soir. Merci Sophie Parmentier.
8h10, merci d'écouter Inter. Irma, un mois après, retour à Saint-Martin. Et un défi toujours pas relevé, Bernadette, celui de l'eau.
Se doucher, faire la vaisselle, laver le linge, autant de gestes indispensables pour des milliers d'habitants, eh bien c'est toujours très compliqué. 60% seulement ont accès à l'eau courante. L'usine de dessalement est en passe de retrouver sa pleine capacité dans l'île. Mais le problème n'est plus là. C'est au robinet que ça coince. En bout de chaîne, les installations sont tellement endommagées. Il faut accélérer le tempo. C'est l'appel du délégué interministériel pour la reconstruction de l'île, qui vise très clairement Veolia. Écoutez.
On a encore une grosse faiblesse sur l'eau. Concrètement, on a des réseaux qui sont défaillants. Il faut accélérer la remise en état des réseaux. Mais maintenant, c'est quasiment maison par maison qu'il faut aller voir si les robinets fuient ou pas. Parce qu'on ne peut pas se permettre non plus de produire de l'eau. Vous savez qu'elle vient de l'eau de mer, hein, puisqu'elle est désalinisée. Et que cette eau parte après dans la nature, ce ne serait pas acceptable. Je repars à Paris et ça sera l'une des premières choses que je vais faire à Paris. C'est de rencontrer les grands opérateurs et le plus grand opérateur de l'île pour lui dire qu'il faut qu'il mette les moyens, comme a su faire EDF. Il y a eu une restauration du courant très rapide pour ce qui était enterré. Et puis après, il a fallu aller quasiment aussi maison par maison pour renouer les fils. Eh bien, EDF a réussi à cela en mettant sur le terrain, vous les avez vus, énormément de monde. Moi, j'attends aussi des prestataires s'agissant de l'eau qu'ils fassent le même effort.
Le préfet Philippe Gustin, micro de Thibault Lefebvre, envoyé spécial de France Inter à Saint-Martin. L'électricité, elle, est rétablie à 80%.
Ils sont plus de 8 millions en France, mais ils se sentent souvent bien seuls.
On les appelle les aidants, ces hommes, ces femmes qui consacrent une partie de leur vie pour un proche, un malade, handicapé, leur temps, leur énergie, parfois aussi leur santé. En cette journée nationale qui leur est consacrée, on fait le point sur les dispositifs mis en place pour les accompagner. Ils existent, mais ils ne sont pas toujours bien utilisés, Sébastien Sabiron.
L'an prochain, Catherine prendra sa retraite. Plus de temps pour ses enfants, pour ses petits-enfants et pour sa mère, atteinte d'Alzheimer.
Du lundi au jeudi, je suis une femme active. Et le vendredi, je suis aidante auprès de maman. Aidant, on a toute la gestion administrative, financière, tous les papiers. On est aidante, je dirais, du matin au soir. C'est surtout quelque chose quand même qui est encombrant dans l'esprit.
Catherine peut compter sur les auxiliaires de vie qui veillent sur sa mère, une présence quasiment permanente mais coûteuse. Elle s'estime donc privilégiée par rapport à certains aidants qu'elle fréquente.
On va dire, on parle de burn-out dans les entreprises et je crois qu'il y a vraiment des aidants qui en sont presque là. Ces personnes-là donnent du temps sans compter et sans se préserver.
Fin 2015, la loi vieillissement crée un droit au répit, une aide de 500 euros pour permettre aux aidants surmenés de souffler, mais ses effets se font attendre. Florence Leduc, présidente de l'Association nationale des aidants.
La première chose qu'on ne sait pas, c'est justement comment vont être sélectionnées les personnes qui vont pouvoir avoir accès au droit au répit. Et pour que cette enveloppe soit utilisée, non seulement il faut rentrer dans les critères, mais encore faut-il aussi être informé de la possibilité d'avoir accès à ce droit au répit.
Ce dispositif concerne uniquement les aidants de personnes âgées dépendantes, soit 100 à 200 000 personnes sur plus de 8 millions d'aidants dans tout l'Hexagone.
Dans un tout autre domaine, pardon, ils sont eux aussi des anges gardiens, des guides pour les reporters de guerre, les fixeurs essentiels dans ces pays en guerre. Sans eux, le reportage ne pourrait avoir lieu. Parmi eux, Bakhtiar Haddad, mort à 41 ans, tué à Mossoul le 19 juin dernier dans l'explosion d'une mine. Ce jour-là, deux journalistes français ont également trouvé la mort, Stéphane Villeneuve et Véronique Robert. Une exposition hommage est consacrée aujourd'hui à Bakhtiar Haddad, à Bayeux, ainsi qu'à ce métier de l'ombre, Alexandra Hakoun.
Bien sûr, il y avait l'envie de ses amis de le raconter. Tous les journalistes français qui ont travaillé en Irak depuis 2002 connaissaient Bakhtiar Haddad, kurde irakien à la peau de miel et aux yeux rieurs, dont un grand portrait ouvre l'exposition. Mais à travers les nombreux clichés et articles présentés, c'est surtout son travail de fixeur que le journaliste Étienne Huvert, à l'origine de cet hommage, souhaitait mettre en exergue.
Là, c'est une photo de Christophe Petit-Tesson. C'est le début de la bataille de Mossoul. Et on voit le journaliste de TF1, Benoît Cristal. Et à côté de lui, il y a Bakhtiar vraiment dans une position derrière un muret, comme ça, il se protège. Visiblement, ça tire assez fort et on sent que Bakhtiar est toujours vigilant. Et voilà, c'était aussi un ange gardien, Bakhtiar, quand on était sur le terrain. On était en confiance avec lui parce qu'on savait qu'il ne nous aurait pas lâchés.
Sur des tablettes, un film se fait encore plus didactique sur cette profession de l'ombre.
Un fixeur, c'est donc un arrangeur, un maître du système D, un guide, un traducteur.
Un film signé Jean-Pierre Canet, ancien rédacteur en chef d'Envoyé spécial et ami de Bakhtiar Haddad.
Le grand enseignement depuis qu'Internet a déboulé dans nos vies de reporters, c'est que nous sommes vraiment moins bêtes à plusieurs que seuls. Et Bakhtiar, qui était dans le silence, on citait peu son nom dans les reportages, mais il était derrière toutes les images. Sans cette pièce maîtresse, il n'y a pas de travail derrière, de récolte d'informations et surtout de vérification de l'information.
Bayeux, Alexandra Hakoun, France Inter.
Donc cette exposition au prix Bayeux des reporters de guerre, et puis vous pouvez aussi découvrir sur franceinter.fr le film Hommage qui est consacré à Bakhtiar Haddad. Un mot de football qui l'eût cru, l'Argentine de Messi qui pourrait être absente du Mondial 2018. Elle est en tous les cas au bord du gouffre, l'Albi Céleste, c'est le nom de la sélection qu'on me communique à l'instant. Elle est au bord du gouffre après son nul face au Pérou 0-0. On croise les doigts pour les Bleus qui s'envolent ce matin pour Sofia, demain face à eux la Bulgarie.
Merci Bernadette, c'était le journal de Bernadette Chamonaz. 8h16, la météo.
La météo avec Atlantique, chaudière, pompe à chaleur et radiateur connectés à Atlantique. Rendez-vous sur atlantique.fr.
Stéphanie Fromentin, le ciel est plus calme, mais pas totalement clair.
Ah non, ce matin, ce ciel se partage l'hexagone entre de faibles nuages, de belles éclaircies et quelques brouillards de saison bien denses du côté de la Loire. Quelques averses circulent sur les régions du nord-est, d'autres résistent sur les Pyrénées. Et vers la Méditerranée, en revanche, le ciel se dégage nettement à la faveur d'un vent qui se renforce en cours de journée. 70 km par heure à 90 km de l'intérieur des terres aux Bouches du Rhône. Cet après-midi, le ciel reste partagé, mais certaines régions s'en sortent mieux, notamment l'ouest et le nord-ouest, qui bénéficieront d'un beau soleil. C'est sur le nord-est que les nuages circuleront, principalement de l'Alsace au Jura en passant par la Lorraine. Quelques coups de tonnerre ponctueront probablement même cette journée. Le soleil sera bien franc, toujours autour de la Méditerranée, mais le vent se renforcera avec des rafales qui atteindront les 110 km par heure dans la région de Marseille.
Le thermomètre amorce le virage vers l'hiver, ça veut dire quoi ?
C'est très contrasté en fait, dès ce matin, entre le nord et le sud, voilà ce que ça veut dire. Vous vous réveillez avec 4 degrés à Beauvais, 5 à Fontainebleau, voilà pourquoi. Alors que les régions bénéficie d'une petite douceur résiduelle. Il fait déjà 20 degrés à Toulon, mais cet après-midi, baisse générale pour tous. Vous pourrez compter sur 13 à 20 degrés du nord au sud. Il fera 14 à Saint-Étienne, 15 à Strasbourg, 16 à Paris et Cherbourg, 18 à Vannes et Lyon, 19 à La Rochelle, 20 à Albi.
Merci Stéphanie.
À la Massif, j'ai le pouvoir de préparer l'avenir et de protéger mes proches en cas de décès ou d'obsèques. Ma famille est rassurée et moi, je suis plus sereine. Massif, essentiel pour moi. Plus d'informations sur massif.fr.
La route Élise Thibault, plusieurs accidents en région parisienne.
Et oui, la 86 est saturée en ce moment. De Nanterre à Gennevilliers, vous avez plus d'une heure de bouchon à cause d'un accident. Ça coince aussi au sud sur la 6 avec deux accidents en remontant vers Paris. En Bretagne, ça coince en ce moment sur la Nationale 12 à hauteur d'Ifignac, direction Saint-Brieuc. Il y a un accident qui entraîne au moins 40 minutes de bouchon. Et puis c'est chargé ce matin pour rejoindre Bordeaux par l'autoroute A10. Vous perdez plus d'une demi-heure avant la rocade.
Point route avec les gentlemen du déménagement, réseau de déménageurs pour les particuliers et les entreprises.
Gentlemen du déménagement.
8h18, géopolitique.
Le 7-9.
Praha.
Sur France Inter.
Bonjour Bernard Guetta.
Bonjour Nicolas.
Ce matin, bon baiser de Riyad.
Le roi Salman, le souverain saoudien, est à Moscou. Il y achète des armes russes, signe des contrats à tour de bras, cherche les moyens de maintenir les cours du pétrole de concert avec Vladimir Poutine. Et cette visite en dit beaucoup sur l'état du monde, car communiste et athée, la Russie avait longtemps été pour Riyad la succursale terrestre de l'enfer. La chute du mur de Berlin n'y avait rien changé, tant les liens étaient profonds entre Américains et Saoudiens, mais... Mais les États-Unis de George Bush sont allés renverser Saddam Hussein en Irak, où ils ont ainsi mis aux commandes la majorité chiite, des coreligionnaires de ses adversaires de l'Arabie Saoudite que sont les Iraniens. Malgré les Saoudiens, Barack Obama a ensuite co-signé le compromis nucléaire qui a permis à l'Iran d'échapper aux sanctions internationales qui bridaient son économie. Par leur abstention dans le conflit syrien, les États-Unis ont parallèlement ouvert les portes du Proche-Orient à la Russie et malgré les gestes de réconfort que leur a aussitôt adressé Donald Trump, les Saoudiens se sont donc résolus à traiter avec Moscou. Tous les y poussaient, d'abord le pétrole, principale ressource des Russes et des Saoudiens, qui à l'heure de leurs difficultés budgétaires respectives, ont un intérêt commun à maintenir ces cours. Ils s'y étaient déjà employés en décembre dernier, lorsqu'ils étaient parvenus à sceller un accord de réduction de la production, c'est-à-dire de l'offre, entre pays exportateurs. Vladimir Poutine travaille aujourd'hui à la reconduction de cet accord qui arrive à échéance l'année prochaine. C'est à cet effet qu'il a déjà reçu le président vénézuélien et reçoit aujourd'hui le roi Salman, mais contrairement à ce que croient toujours tant de complotistes, il n'y a pas que le pétrole au monde. Sur la scène proche-orientale, Russes et Saoudiens sont face à face, puisque les premiers sont les alliés de l'Iran et du régime syrien, de deux adversaires des seconds. Cela reste vrai, Riyad et Moscou ne font pas jeu commun dans la région, mais le référendum d'indépendance des Kurdes irakiens est en train de modifier beaucoup de choses au Proche-Orient. Les États y découvrent soudain qu'au-delà de leur rivalité et de l'affrontement entre sunnites et chiites, ils doivent chercher les moyens d'une coexistence pour trouver ensemble les moyens de s'opposer à la remise en question de leurs frontières. Il y a des Kurdes dans quatre de ces pays, des sunnites dans l'Irak majoritairement chiite et des chiites jusqu'en Arabie Saoudite où ils sont concentrés dans les régions les plus pétrolifères. Raison d'État oblige, une sainte alliance s'impose aux puissances proche-orientales et c'est également avec un allié de l'Iran que le souverain saoudien est venu s'entretenir en Russie.